Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Ça se passe par là, alors.
Mercredi 15 avril 2026, 10h du matin.
Mais globalement, en France, on en trouve assez, enfin, c'est assez facile de produire.
Dans ce nouvel épisode, Univox présente l'atelier de taille lithique proposé depuis 2022 par le laboratoire Trace à la Maison de la Recherche de l'Université Toulouse Jean Jaurès. C'est la première fois que vous allez tailler les pierres ?
Oui.
Pourquoi cet intérêt ?
On regarde un travail de recherche.
Vous êtes chercheuse ?
En psychologie, je suis doctorante.
En psychologie ?
Oui. Oui, on veut expérimenter le processus pour savoir ce que ça fait justement tailler des pierres, pour réfléchir après à la question de la symbolisation à la préhistoire.
D'accord.
Monsieur Branchard vous dira sûrement mieux comment.
Je ne m'attendais pas à trouver de la psychologie dans ce cadre-là.
Il y a des passerelles qui se font aussi entre les disciplines.
Parce qu'en pratiquant, on prend peut-être plus conscience des difficultés, des postures.
Oui, totalement. Par exemple, se dire, on en discutait tout à l'heure avec les autres doctorants, entre « je veux tailler une pierre » et l'expérimenter, ça permet aussi de voir psychologiquement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on s'est imaginé où est-ce qu'on allait taper ? Est-ce qu'il y a tout un travail de mentalisation ? Il y a des questions un peu comme ça qu'on se pose.
C'est un peu impressionnant au début ou...
Je vous dirais juste que j'ai hâte. Donnez-moi de quoi taper les pierres.
Vous pouvez vous présenter ?
Ah oui, pardon, je m'appelle Constance Barthès. Je suis doctorante en 5e année de thèse au LCPI.
LCPI ?
Laboratoire de clinique psychopathologique et interculturelle.
Donc bientôt en exercice ou...
En exercice en tant que psycho ?
Oui.
Ah, je le suis déjà parallèlement. Je suis psychologue clinicienne en libéral. Et à côté, donc, je fais ma thèse et j'enseigne à l'université.
On ne va pas refaire ce que font les hommes préhistoriques. Là, on est vraiment dans quelque chose de... Vous initiez au savoir-faire.
Vous initiez, oui,
donc, on n'a pas besoin d'être dans la forêt.
Oui, tout à fait.
On n'a pas besoin d'avoir un siège en peau de bête.
Oui, tout à fait.
Vous allez avoir des poux pour vous protéger, quand même. Mais voilà,
okay. Oui, bien sûr.
On est dans un cadre...
On rencontre la matière.
Voilà, c'est une rencontre avec la matière. Et je pense qu'on va essayer de faire... Je vais demander à Malo de vous... On va s'installer, lui va vous montrer un peu... On va vous parler des contraintes de base.
Oui.
Comment ça se passe de produire un éclat avec un bloc. Et après, vous allez taper, quoi. Faut rentrer dans la matière, quoi. Du coup, on fait une petite sélection de blocs. Et on va s'installer. Ensuite, il va y avoir les collègues de master qui devraient arriver. Mais eux, ils sont autonomes.
Lucas.
Oui. Bonjour. Je m'appelle Lucas. Moi, je suis doctorant au laboratoire. Je travaille sur les industries en pierre taillée et spécifiquement sur des industries en obsidienne. Donc là, aujourd'hui, on va tailler surtout du silex. Mais moi, je travaille sur l'obsidienne au Japon. Donc c'est une matière qui est comparable au silex qu'on peut trouver en France, mais qui est différente dans sa formation, qui est une sorte de verre volcanique, en fait. Hein. Mais c'est parmi une des roches que les hommes préhistoriques et les femmes de la préhistoire ont taillé.
Tu as parlé d'industrie deux fois. Qu'est-ce que ça implique dans ce domaine aujourd'hui ?
En fait, ce qu'on appelle industrie, c'est tous les objets qui ont pu être produits au cours de la préhistoire et qui vont nous intéresser, nous, dans notre recherche. Donc en fait, c'est tous les objets, les outils qu'on retrouve dans les sites archéologiques et dans les séries qu'on étudie soit dans les musées, soit qu'on extrait des sites et qu'on ensuite on va étudier. et on va essayer de comprendre comment ils ont été produits et comment ils ont été utilisés. Et où est-ce que la matière a été prélevée dans, dans l'environnement direct ou plus lointain du site pour comprendre les implications que ça a dans le cadre des comportements des humains.
Pour cerner, pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout, préhistoire, tu entends quoi par là ?
Alors,
quelle période ?
C'est très large, la préhistoire. La préhistoire, nous, ce qui nous intéresse, c'est... Donc, on est bien sur des populations humaines. Et quand je veux dire préhistoire, c'est... Donc, la préhistoire, c'est avant l'histoire. Dans la grande catégorie de l'étude des humanités, la préhistoire, c'est ce qui se passe avant l'écrit. Et moi, ce qui m'intéresse spécifiquement, c'est le paléolithique. Donc, en fait, c'est la période qui s'intéresse aux populations humaines avant le néolithique. Donc, c'est les industries en pierre taillée. Donc en gros, ça va de plusieurs 1 million d'années jusqu'à à peu près la fin du paléolithique, elle, autour de 10 000 ans, en gros. Mais moi, je travaille sur le paléolithique supérieur, donc c'est une période qui va de moins 40 000 ans à moins 10 000 ans. Ouais, pour un grand cadre. Après, il y a plusieurs collègues qui travaillent surtout... Là, aujourd'hui, on est surtout sur des paléolithiciens, mais il y a des collègues qui travaillent aussi sur le néolithique. Donc là, c'est associé à des populations qui vont avoir tendance à se sédentariser. Donc nous, ce qu'on travaille sur le paléolithique, c'est plutôt des populations de chasseurs-cueilleurs qui sont nomades. Au néolithique, ils vont avoir tendance à se sédentariser. Et ils ont aussi des manières de faire qui sont différentes par rapport à l'usage des roches, mais aussi de leur stratégie de chasse, de leur vie de tous les jours, quoi. Donc là, pour le paléolithique, nous, c'est des chasseurs-cueilleurs qui utilisent la roche comme une source de matière première pour produire des outils. Donc nous, on s'intéresse à ces outils-là précisément.
Je te prends le petit.
Penser comme un espace de travail et de discussion autour de la taille expérimentale des roches, cet atelier réunit aujourd'hui de nombreux participants et intervenants. Ainsi, des rendez-vous hebdomadaires permettent une pratique régulière de la taille au sein du plateau P2 Archéologie Expérimentale de la plateforme Archéosciences de l'UMR.
C'est bon, ça.
Toi, Benjamin, tu tailles ?
Je taillote, j'avais essayé, mais sans plus. En fait, moi, je ne travaille pas sur le... Mes sujets d'études, c'était pas sur le silex. Donc j'ai pas, c'est pas pour moi, c'est pas un objet qui me permet de mener des recherches. Et puis quand j'ai besoin de silex expérimentaux, je m'adresse à des spécialistes. Mais oui, j'avais essayé au début parce que ça, c'est quand même intéressant de tester, de se confronter au truc. On peut apprendre, on apprend en cours d'archéo la théorie sur la taille de la pierre. Mais en fait, tant qu'on n'a pas tapé sur un bloc de silex, on peut avoir tous les cours théoriques qu'on veut. Bon, à un moment, il faut essayer. Et de suite, il y a des choses qu'on comprend, je pense qu'on ne peut pas comprendre si on n'essaye pas. Donc c'est toujours intéressant d'essayer.
Toi, tu es là à quel titre aujourd'hui ?
Alors moi, je suis là au titre de chargé de communication du laboratoire, puisque donc, c'est un atelier un peu spécial où on accueille donc le micro de Campus FM et des collègues de Psycho pour découvrir cet atelier de taille. Et donc moi, je suis là pour documenter un petit peu tout ça, montrer que le laboratoire... à diverses activités, lance diverses collaborations aussi avec d'autres spécialités. Donc moi je documente un petit peu l'atelier de manière à diffuser un petit peu ce qu'on y fait, pourquoi on le fait. Et donc je suis là pour prendre des photos et diffuser tout ça sur nos réseaux.
Là, il est couvrant, il est assez fin, j'ai pas perdu beaucoup d'épaisseur sur ma pièce. Vous voyez là, hop, il n'y a même pas un millimètre quoi. Et pour le coup, je perds en épaisseur sur ma pièce, c'est ce que je cherche, c'est pour ça que mes éclats sont assez fins et plutôt couvrants comme ça sur ma pièce. Donc là j'ai encore un peu d'épaisseur, J'ai fait une série d'enlèvements sur ce côté-là. J'essaye de faire la même pour les faire rejoindre. Et là, j'ai encore un peu d'épaisseur. Donc là, je suis fin. Donc en fait, je fais des éclats qui couvrent et ça m'ouvre des arêtes comme ça, là, qui vont pouvoir me permettre d'aller chercher loin. Et petit à petit, ma pièce s'affine. J'espère pouvoir passer ce mur là, mais. Puis en plus, le Slex m'aide pas trop parce que là, j'ai découvert ça là. Attendez.
Là, l'idée c'est de faire quelque chose qui ressemblerait à une pointe de flèche.
Ouais, en tout cas là, c'est pas pour lui donner une valeur archéologique ou une typologie archéologique. C'est plus pour moi pour m'entraîner sur mes enlèvements. Mais oui, c'est des choses qu'on peut retrouver archéologiquement, des pièces fines qui peuvent être des armes de chasse. Ouais.
Donc après chaque coup, après l'impact, on analyse.
Ouais, c'est toujours bien de replacer l'éclat pour voir où c'est qu'on a frappé, si on a vraiment frappé là où on voulait. Et puis, après moi je suis débutant, donc c'est un geste qui je pense est nécessaire ouais, à la compréhension. Là vous voyez, j'ai tapé trop dedans.
Yeah, parfois on tape et on regrette après.
Ouais, là genre, au lieu de taper plus proche du bord, j'ai tapé à 5 mm, 5-7 mm dedans quoi.
Et là, pas moyen de faire marche arrière donc.
Non, là, le Silex, c'est pas moyen de faire marche arrière, non. Malheureusement. C'est pour ça que ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de patience surtout. Ouais.
Alors là, on est sur les percuteurs. C'est notre stock de percuteurs. Donc il y a tout type de percuteurs. Il y a des petits, il y a des gros, hein. Et il y a aussi plusieurs standards de dureté de percuteurs. Par exemple, là on est sur un percuteur qui est en... C'est du granit. Donc c'est un percuteur qui est très dur. Là on voit qu'il a bien vécu, hein. Il y a plein de traces de percussion. Et il est très lourd. Donc il y a
tu
à la fois...
Tu peux arriver à lire la pierre hein, en la regardant comme ça.
Ah, là je vois qu'il voilà, y a eu un éclatement qui est associé à une zone où il y a eu beaucoup de il y a plein de traces de fracturation. Hein. Et là, pareil, en fait, on voit que c'est utilisé. Mais là, bon, je sais que c'est utilisé comme percuteur parce que je sais aussi que c'est un galet, qu'il a un poids important. C'est pas difficile de se dire que c'est un percuteur. Si je le trouve dans un site archéologique, je saurais. C'est pas une pierre de foyer, par exemple. On voit que ça n'a pas chauffé. Par contre, on voit qu'il y a eu vraiment des percussions répétées à certains endroits qui sont les extrémités. Donc, c'est vraiment les endroits qu'on utilise pour percuter, quoi.
Ça fait quoi, un kilo hein?
Là, on est sur un kilo, un kilo deux, je pense. Même un peu plus, peut-être. Et surtout, donc, il y a à la fois la taille, le poids, la densité et la dureté. La densité et la dureté. Donc, qui sont des choses voilà, qui sont importantes quand on veut utiliser un percuteur. Là, on est sur des percuteurs qui sont en grès, par exemple. Donc, on est un peu plus petit. Là, on doit être autour de 400, 500 grammes.
Une autre finalité, là.
Et là, c'est une autre finalité parce qu'on sait que c'est du grès. Donc là, on est sur un percuteur qui est plus donc, lithique, mais plus tendre. Donc, il ne va pas produire les mêmes effets sur la roche. Et pareil, hein, on voit aux extrémités qu'il y a plein de traces de percussion, donc pas de doute, c'est un percuteur, aucun doute. Et lui, il a été utilisé pour produire des éclats qui sont plus fins ou plus couvrants. Quoi. Voilà, on a tout un panel de percuteurs.
Ouais.
Et bon, chacun se sert par rapport à son projet spécifique à chaque fois.
Combien de participants en général à ces ateliers?
Eh ben, ça varie. On est surtout des doctorants et des masters du laboratoire. Ça va de 5 à 15. Ça dépend des années, ça dépend des séances, ça dépend de l'objectif qu'on a à chaque séance. Mais le but, c'est de se retrouver de manière récurrente. Là, aujourd'hui, on est, je pense, une petite dizaine entre les masters et on accueille aussi des gens qui sont en psycho, qui viennent s'initier à la taille de roche. Donc ils n'ont jamais taillé de silex.
C'est exceptionnel que ce ne soit pas des archéologues.
C'est exceptionnel, oui, mais pas extraordinaire. Ça arrive souvent, on a souvent des gens qui viennent nous voir, nous rencontrer, pour s'initier ou pour, comme toi, pour qui s'intéressent à notre démarche. Quoi. Donc là c'est intéressant parce que c'est une séance un peu, voilà, c'est différent parce qu'on va montrer à des gens qui n'ont jamais taillé qu'est-ce qui se passe quand on tape sur un bloc et comment on veut produire un éclat et comment on le fait. Là c'est intéressant parce que c'est vraiment une... Par de zéro, quoi. D'habitude, les gens qui viennent, c'est des gens qui taillent toutes les semaines, donc ils sont habitués. Ils atteignent une certaine autonomie, du coup, on n'est pas sur le même projet. Quoi. Là, il y a vraiment un truc, c'est à de zéro, quoi. Salut.
Pour les pierres d'habitation. Par exemple, en Normandie, il y a beaucoup de maisons qui sont faites avec des blocs.
Ça sonne bien.
Ça sonne bien sûr.
Et sinon, globalement, aux arbres d'arrière.
Et quel est l'intérêt aujourd'hui justement pour travailler et utiliser les...
Nous, pourquoi on fait ça? Bah pour étudier l'archéologie, pour comprendre ce qui s'est fait.
Loïc, tu peux commenter pendant que tu fais.
Ouais, bien sûr. Alors là, moi, je fais ce qu'on appelle du bifacial, donc c'est-à-dire j'essaie d'affiner au maximum un éclat, un bloc de matière première, de silex. Et pour l'affiner, j'envoie des éclats sur ces deux faces. C'est pour ça qu'on appelle ça du bifacial. Et mon objectif ici, ça va être de réduire au maximum l'épaisseur de cette pièce en diminuant au minimum sa longueur pour garder une pièce fine et allongée. Donc d'inspiration, les pièces un peu bifaciales du néolithique par exemple, il y a à peu près 5000 ans. Longues pièces très effilées, des grands couteaux. Et donc pour l'instant, j'essaie de réfléchir en termes de convexité. Une pièce, elle a des creux et des bosses. Pour qu'un éclat suive, il faut qu'on suive des bosses. Si on suit un creux, notre éclat il va sortir. Et donc en fait, j'essaie toujours de garder ma pièce et de réfléchir à quel endroit je vais taper pour que l'onde de choc que je vais envoyer dans la pièce aille le plus loin possible. Et soit la plus large possible pour affiner au maximum ma pièce. Et donc actuellement, ce que je suis en train de faire, donc j'ai enlevé une série de grands éclats sur une première face pour essayer de régulariser au maximum cette face et de l'aplanir. Et à partir de maintenant, je vais commencer à m'attaquer à l'autre face pour envoyer des grands éclats le plus couvrant possible pour affiner cette pièce sans perdre la longueur.
Il arrive un moment où on peut aller trop loin et c'est raté?
Systématiquement, oui. Les accidents, c'est assez intéressant en plus de faire des accidents pour nous archéologues, parce que ces accidents, on les retrouve dans les séries archéologiques. Et ça peut permettre, d'une certaine manière, et bon, c'est un peu simpliste de dire ça, mais plus on fait d'accidents et plus on débute, d'une certaine manière. Et donc, de faire nous-mêmes ces accidents, on peut comprendre des erreurs de gestes, des erreurs de matière première, des erreurs d'angulation. Et donc, ensuite, de comprendre les séries qu'on étudie. Et donc, c'est vrai que la taille, pour nous, ces erreurs-là, sont même très importantes pour nous, parce qu'elles nous permettent de comprendre ce qu'on observe, in fine, dans nos séries archéologiques.
Alors la finalité pour vous, hommes de maintenant et ceux d'avant, n'est pas la même?
Absolument pas. La production des paléolithiques, leur production lithique, est un besoin. On a des besoins, on va y répondre. L'un des moyens de répondre à ces besoins, c'est en taillant des silex. On a besoin de chasser, on a besoin de couper de la viande, on a besoin de récupérer des plantes. Nous, notre finalité à nous est de comprendre ces populations paléolithiques. Pour les comprendre, on essaie aussi de comprendre leurs pensées aussi, mais pour aborder la pensée, il faut parfois essayer d'aborder les gestes. Donc c'est de cette manière où notre finalité n'est pas la même. Nous, à la fin de la journée, si on a cassé notre pièce, on mange. Le paléolithique, pas forcément. Mais...
Et donc j'ai vu que tu frottes d'abord et tu tapes après.
Alors voilà, il y a plusieurs méthodes qu'on peut solliciter quand on taille du silex. Il faut toujours taper, on va envoyer extrêmement de force sur une pierre qui est très fragile. Si je tape en plein milieu de cette pierre, elle se casse en deux. Et donc, mon objectif, c'est de préparer ce qu'on appelle des plans de frappe qui vont être à même de conduire l'onde de choc et d'absorber la puissance, la puissance du choc. Et donc, je frotte, on appelle ça de l'abrasion. Et donc, je choisis l'endroit où je vais frapper. J'abrase les parties qui sont les plus faibles, les plus fragiles. Et ensuite, je vais pouvoir venir percuter la matière pour enlever mon éclat. Et voilà, c'est comme ça qu'on prépare une pièce.
Quand on bricole à la maison, on a souvent un outil préféré.
Ouais.
C'est le cas ici aussi, j'imagine.
C'est exactement le cas, oui. Chaque tailleur a son petit panel. Donc, moi, à côté de moi, j'ai ce qu'on appelle des percuteurs tendres, donc qui sont faits à partir de bois végétal. On a du buis, ici, qui est très dense. C'est l'un des bois les plus denses qu'il existe. Donc, on peut très bien transmettre de la force. En plus, c'est légèrement élastique. Donc, c'est très, très bien.
Et tu peux casser de la pierre avec du bois?
Ah, tout à fait, oui. C'est extrêmement... Alors, c'est pas qu'on va fracturer, mais on va arracher des fragments. Plutôt que, c'est ça aussi où le bois va être efficace, on arrache des fragments très fins plutôt que de casser réellement la pierre. J'ai également du bois de serre, du bois de renne, du bois d'élan. Donc ce sont des choses qui vont permettre de percuter, qui sont très très denses. Et après j'ai toute une panoplie de pierres. Ces pierres elles sont plus ou moins tendres, plus ou moins dures. Alors c'est bizarre de dire qu'une pierre est tendre. Mais selon sa composition, du grès, des pierres dures comme de la quartzite, on va avoir différentes densités de la pierre. Et cette densité va nous permettre d'avoir différentes actions sur la matière première, donc de la fissurer, de la fracturer, etc. Et donc, in fine, de préparer, de faire des outils.
Toi, tu dirais que tu as un bon niveau en taille ou tu...
Alors, je n'ai pas un excellent niveau, je ne suis pas un très grand tailleur, mais ça fait 2-3 ans que je taille un petit peu, donc je commence petit à petit à savoir ce que je fais, à pouvoir me débrouiller, à faire des pièces assez sympathiques et surtout à essayer de reproduire des productions paléolithiques.
On peut y prendre du plaisir à la longue.
On y prend énormément de plaisir, ça peut même devenir très addictif. Et je pense qu'aucun de mes camarades ici présents pourra dire le contraire. C'est vraiment... On peut passer des heures, surtout que c'est extrêmement ingrat les premières années. On se fait très mal aux doigts, on se fait des énormes bleus sur la cuisse, on casse énormément de matière. Mais in fine, c'est quelque chose d'extrêmement récompensant, vraiment. Dans sa pratique, on y prend beaucoup de plaisir, vraiment.
Il t'arrive de le faire en dehors de ton travail d'archéologue ?
Régulièrement, à la maison. Ma compagne râle qu'il y a des petits éclats de silex qui coupent les pieds un peu partout dans l'appartement de temps en temps, mais...
Ouais, mais non, parce qu'une fois coupé, c'est tranchant.
Ah, c'est extrêmement tranchant. Hein. C'est, par exemple, j'ai une feuille de cuir ici avec moi, donc c'est du cuir de vache. On est à peu près à 1,5 cm d'épaisseur. Hein. C'est du cuir très très épais. Et si je prends un éclat que j'ai fait, que je viens de faire il n'y a pas très longtemps, on peut voir que, sans aucun souci, ça tranche, c'est vraiment extrêmement efficace et le fil n'est pas altéré pour l'instant. Je peux continuer à trancher des bouts de cuir extrêmement épais. Donc c'est d'où le fait qu'on se protège énormément, qu'on a tous les mains avec des coupures un peu partout parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement tranchant.
Alors les hommes qui taillaient de la pierre, sur leur emploi du temps, j'imagine que ça devait être une part importante de...
Très sûrement. D'autant plus que la pierre, c'est lourd. Et donc, on peut pas non plus. On peut produire en avance, on peut prévoir un usage futur. On peut pas non plus remplir un sac à dos. Enfin, le moindre bloc qu'on va tailler pèse vite 1 kg, 2 kg. Et donc, pour des personnes qui peuvent être amenées à bouger pour aller des camps de chasse, pour aller récupérer des végétaux, pour aller récupérer beaucoup de matières premières, ça peut être impactant d'avoir des choses trop lourdes à porter. Donc effectivement, ça devait à certains moments leur prendre beaucoup de temps pour prévoir un usage futur, laisser éventuellement à un camp résidentiel. Mais du coup, oui, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, surtout l'apprentissage est très long. Mais au bout de quelques années, les paléolithiques sont totalement au courant des schémas mentaux nécessaires et des techniques requises pour faire les pièces dont ils auront besoin. Et donc ça peut aller extrêmement vite. C'est produire une série de lames qui vont ensuite nous être utiles pour prendre des outils, ça peut prendre 10 minutes, un tailleur expérimenté. Donc au final, ça prend beaucoup de temps quand on est jeune, enfin quand on débute, souvent quand on est jeune, et après c'est beaucoup plus expéditif quand on a plus d'expérience. Tu la tiens à la main ?
Bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois ?
C'est la troisième fois. Ah. Donc, c'est pas vraiment bien.
C'est compliqué ?
Oui, c'est compliqué. Après, tu vois, c'est les choses d'apprendre la technique. Après, quand une personne apprend la technique, c'est aussi plus facile, mais... Je ne suis pas capable, donc j'essaye de comprendre, de faire, donc c'est un peu comme ça. C'est si comprendre où tu dois taper, mais oui.
Par exemple, tu vas essayer à quel endroit ?
Ah, ici, pour essayer de lever cette part ici, tu vois. Mais je ne sais pas exactement comment je dois faire, donc...
Merci. Donc là, on est sur à la fois des novices, des gens qui ont quand même déjà 2, 3 ans, 4 ans derrière.
Ouais, là, c'est. En fait, l'atelier de taillitique ici, il est très ouvert. C'est quelque chose qui est ouvert à la fois aux gens qui sont des spécialistes ou des spécialistes en formation pour les doctorants de l'étude des outils en pierre, principalement de la préhistoire, mais pas que. Donc eux, ils vont vraiment apprendre à tailler pour en faire un outil de recherche, pour que ça leur serve vraiment dans leur recherche. Après, ça peut aussi accueillir des étudiants de première année, par exemple, qui sont curieux, qui veulent essayer. Ça peut accueillir des gens extérieurs, comme nos collègues là, de psycho. Et donc, tous les niveaux de maîtrise sont représentés, hein, entre ceux qui font ça depuis très longtemps, qui commencent à avoir un bon niveau, et puis d'autres qui viennent vraiment s'initier, découvrir, qui viendront peut-être qu'une seule fois, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'ouvrir ça au maximum. Et puis certaines fois, c'est aussi l'atelier est aussi doublé de s'inscrit en fait dans des séminaires ou des colloques de recherche où on a à la fois des chercheurs donc extérieurs qui viennent présenter leurs recherches, échanger sur ces questions d'outils en pierre, et puis faire aussi de la pratique. Montrer ce qu'eux savent faire, présenter peut-être des techniques que ici on ne maîtrise pas, mais qu'eux maîtrisent. On a eu comme ça des gens qui sont venus nous parler de taille du cristal. On a des très jolis petits cristaux de roche taillés. Bon ben voilà, ça c'est une technique particulière qu'ils sont peu nombreux à maîtriser. Donc quand on a des gens qui arrivent avec un savoir-faire, on en profite. On dit tiens, montre-nous ce que tu sais faire, on documente tout ça. On peut enregistrer, on peut garder des traces de tout ça qui vont servir ensuite de référentiel, qui vont servir à documenter des pratiques ou des techniques particulières. Et puis on va surtout garder tout ce qu'ils vont produire. C'est-à-dire que quand on a des personnes étrangères, enfin extérieures, qui viennent tailler, on va garder tout ce qu'ils vont produire, les déchets de taille, les objets qu'ils vont obtenir. Et puis tout ça va nous permettre, nous, de documenter ce qu'on appelle notre lithothèque. La lithothèque, c'est un peu l'équivalent d'une bibliothèque, sauf que au lieu d'avoir des livres rangés par thème, on a des cailloux. Soit naturel, soit taillé, rangé aussi par thème. Alors caillou taillé avec telle technique, telle autre technique, etc. Et ça nous permet d'avoir des éléments de comparaison ensuite qu'on va réutiliser en fonction de nos recherches.
Donc des cailloux taillés dans la préhistoire et des cailloux taillés maintenant, on fait des parallèles et on se dit tiens...
C'est ça, c'est-à-dire que les objets expérimentaux, ce qui va être produit maintenant, ça va nous permettre, comme tu dis, de faire des parallèles. De se dire, cet objet archéologique, je vois qu'il a telle forme, telle morphologie, il a telle trace à sa surface. Je peux comparer avec tel objet produit expérimentalement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objet expérimental, on sait comment il a été fait, on a tout le déroulé avant. Donc on sait comment ça a été obtenu. Et donc on peut conclure de là, on se dit, cet objet archéologique, du coup, ça ressemble à tel objet expérimental, donc il a sans doute été produit avec telle technique ou telle méthode. Et donc on va plus loin dans l'interprétation de nos objets archéologiques.
C'est quelque chose qui va se former autour de quelque chose autour du naturel. Donc il y a une espèce de croûte tout autour. Cette croûte, c'est ce qu'on appelle le cortex, cette espèce de dépôt blanc. Ce dépôt blanc, il n'est pas fait de la même matière que le silex lui-même. Et donc il ne répond pas aux mêmes contraintes mécaniques. Donc effectivement, si tu tapes sur le dépôt blanc, il ne va pas se passer la même chose que si tu tapes sur le silex.
Ah oui. D'accord, ce qui était
peu de l'autre côté. Alors oui, voilà, ça coupe, ouais, on vous l'a dit.
Oui, j'avais dit la colle. En fait, il y a une lame, il y a un point de l'autre côté, et quand je frappe, je me blesse moi-même.
Ouais.
Comme ça.
C'est assez récurrent. N'ayez pas peur, on a plein de pansements. Et donc, en fait, quand on tape dessus, il faut toujours essayer de respecter une question d'angulation. Vous avez des angles qui sont fermés, donc des angles qui sont supérieurs à 90 degrés, des angles qui sont... Enfin, non, des angles qui sont ouverts, pardon. Supérieurs à 90 degrés, des angles fermés inférieurs à 90 degrés. Et les morphologies du silex fait qu'il ne cassera que s'il n'y a des angulations inférieures à 90 degrés. Donc,
Enregistrement et entretien mené par François Berchenko dans la matinée du mercredi 15 avril 2026 à la Maison de la Recherche de l'Université Toulouse Jean Jaurès.
Si je veux casser un éclat, je suis obligé de respecter ça. Par exemple, on va voir qu'ici, l'angle, il est au final légèrement ouvert.
C'était.
Et donc, je peux taper comme je veux.
L'atelier de taille lithique du laboratoire Trace.
J'ai aucun éclat qui va sortir. On voit que ici, j'ai un angle qui est inférieur. Donc si je tape ici...
Un reportage radiophonique sur l'écosystème étudiant et universitaire toulousain par François Berchenko.
Donc déjà, c'est un des trucs que vous pouvez regarder. Toujours essayer de respecter. Alors toi, tu as un éclat qui est un peu fin. Et ça risque du coup d'être un peu compliqué. Au début peut-être, parce que, genre ça c'est pas mal pour comprendre un peu les angulations. Ça aussi. Les angles, c'est des pièces qui sont un peu plus épaisses et du coup qui ne vont pas se casser parce que celles-ci, si on tape au mauvais endroit, elles vont se casser.
Oui, parce que ce que j'ai eu le premier, ça s'est planté.
Et ça aussi, ça peut faire un peu mieux la faire. Et donc voilà, au début, toujours essayer de respecter cette question d'angulation. On cherche des angles qui sont inférieurs à 90 degrés. Là, ici, il est légèrement supérieur, donc ça ne va pas passer.
Ouais,
Ouais, mais en fait, tu vois, en plus, ouais, voilà, c'est une chose qui est un peu particulière, c'est que tout ça, c'est un peu mangé, c'est un peu cassé, etc. Ouais. Donc ça ne va pas réagir à la même manière.
Avec la participation de Constance Barthès, doctorante et psychologue clinicienne, Lucas Dijkstra, doctorant, Benjamin Marquebiel, chercheur associé et assistant de communication du laboratoire Trace, ainsi que Loïc et les participants de l'atelier. un programme radiophonique produit par Campus FM à Toulouse pour la série
Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.